Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
Lo que se reproduce dentro de la radio.
France Inter, le 18-20.
On a tous quelque chose en nous de 68, c'est toute la semaine sur France Inter et dans un jour dans le monde, nous les chassons à travers le globe, les 1968 qui ont secoué le monde. Ce soir, nous sommes à Prague, incontournable Prague, ses chars, son printemps écrasé. Nous allons aussi faire un détour par la Pologne et son mars 1968. À chaque fois, la fin par la violence, mais en germe, la fin du communisme qui s'annonce déjà. Et on en parle ensemble dans un instant. Ce soir aussi, le prince Al-Walid d'Arabie Saoudite enfermé au Ritz pendant 3 mois, la prison dorée, pas si dorée, de Riyad, raconté par Florence Paracolos. C'est sous les radars, 18h50, le feuilleton écolo de Sandy Dauphin. La chaîne Walmart a une solution. Puisque les abeilles disparaissent, et bien des robots pollinisateurs vont les remplacer. Le monde est fou et ça se confirme. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers et nous expliquera que dans les guerres commerciales en cours, on cherche peut-être surtout à se faire peur. Le monde est vaste ce soir, il est à l'Est, il y a 50 ans. On a du temps, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
C'est rapide, c'est... ça grince aussi. Bonsoir Bernard Guetta.
Bonsoir Fabienne.
Et vous devinez évidemment ce qu'on entend derrière nous, qu'on entend mieux là, attendez. Voilà, c'est un char, on est dans la nuit du 20 au 21 août 1968 à Prague. On parlera aussi avec notre invité qui arrivera dans un instant, Christophe Pomian, on parlera aussi de la Pologne, de Varsovie, parce qu'on oublie souvent qu'il y a aussi la Pologne 68 du côté des pays de l'Est. D'abord, je voudrais, pour Prague, Bernard, que vous nous donniez un petit peu de contexte, juste avant l'arrivée de Dubček. Qu'est-ce qui se passe en Tchécoslovaquie? Qu'est-ce qui favorise cette arrivée et le printemps qui suivra?
Vous savez, la Tchécoslovaquie, c'était dans le bloc communiste, un pays tout à fait étonnant, parce qu'il y avait eu réellement, avant que Staline mette la main sur ce pays, un parti communiste extrêmement puissant, parce que la Tchécoslovaquie était un pays très industrialisé, un pays très en avance, très moderne, et donc quand Staline installe, comme en Pologne, comme en Roumanie, etc., son régime à lui, eh bien ça n'est pas complètement artificiel. Il y a une base, il y a une partie du pays qui donne son assentiment. La deuxième caractéristique de la Tchécoslovaquie, c'est que au moment de 56, de la déstalinisation, du rapport de Khrouchtchev devant le 20e congrès et donc de la dénonciation des crimes de Staline, eh bien, il n'y a pas eu, mais pas le moindre mouvement de déstalinisation en Tchécoslovaquie. Il y en a eu des très forts en Hongrie et en Pologne, il y a eu des mouvements en Roumanie, il y en a eu un peu partout en vérité. Mais en Tchécoslovaquie, non. Pourquoi? Parce que le leader des années staliniennes meurt juste à ce moment-là, il est remplacé immédiatement par un nouveau, et le nouveau va rester en place, eh bien quasiment jusqu'en 68, et donc gelé ce moment de rupture que l'ensemble du bloc soviétique allait pourtant connaître. Et puis, naturellement, vous savez, il y a un proverbe russe, quand la pression est trop forte, le couvercle du samovar saute tout seul, et ben c'est ce qui se passe en Tchécoslovaquie. La pression était tellement forte que les écrivains, surtout les écrivains, les cinéastes, surtout les cinéastes, les acteurs, les profs, surtout les profs, etc. Les étudiants, n'en parlons pas. Toute l'intelligentsia tchèque et slovaque, tchécoslovaque, rentre en ébullition et d'une manière tellement forte que Novotny, qui est là depuis la mort de Gottwald, le secrétaire général des années staliniennes, eh bien, Novotny est obligé de céder la place à Alexandre Dubček.
Mais sauf qu'il cède la place, pardon de vous interrompre, il demande le soutien de Moscou d'abord. Pourquoi Moscou vient pas à la rescousse de Novotny à ce moment-là?
Mais parce que à ce moment-là, on n'imagine pas du tout à Moscou que ça va prendre cette tournure-là, et on est bien conscient qu'il faut répondre un minimum, et qu'il faut mettre un peu d'huile dans les rouages, que ce Novotny n'a rien compris, etc. Et donc, Moscou non seulement laisse faire, mais Moscou pousse à la rue, à la roue, pour le changement d'équipe à la tête du parti.
Pousse à la rue, joli lapsus, parce que la rue viendra quelques jours plus tard.
Parce qu'en vérité, oui, c'est exactement ça, oui, c'est vrai, le lapsus est très joli. Et donc, dès que Dubček arrive, eh bien, c'est un homme neuf, et c'est un homme neuf qui, exactement comme Gorbatchev, une poignée d'années après, alors, en vérité, 20 ans après, à peine, eh bien, exactement comme Gorbatchev, va impulser, ou en tout cas permettre, Gorbatchev va l'impulser, Dubček va le permettre et l'impulser, le mouvement d'en haut.
Mais est-ce qu'il prémédite réellement son geste? C'est-à-dire, est-ce qu'il sait lui-même, quand il arrive, jusqu'où les choses peuvent aller? Est-ce qu'il est en train de provoquer? Pour le coup, vous faites la différence avec Gorbatchev. On pourrait aussi poser la question dans ce sens-là. Quand il en trouve la porte, est-ce qu'il sait qu'il y aura un grand coup de pied dedans, que ça va s'ouvrir très grand? Dubček.
Il sait qu'il n'a pas d'autre choix que d'entrouvrir la porte, et il sait qu'il veut accompagner ce mouvement de libéralisation et de démocratisation. Alors, jusqu'où il voulait aller, mais probablement qu'il ne le savait pas lui-même, parce que personne ne pouvait imaginer, quand il arrive au pouvoir, au tout début de 1968, ou à la toute fin de 67, je ne sais plus, peu importe, au tournant des deux années, eh bien, il pouvait pas savoir que ça irait jusque-là. Mais évidemment que...
5 janvier, la... voilà.
Voilà, okay. Voilà, c'est ce qui me semblait. Tout début janvier, évidemment que la contestation va nourrir la contestation, l'audace, l'aspiration, et qu'on va se trouver en Tchécoslovaquie dans une situation absolument invraisemblable que même les Polonais n'avaient pas connue en 56, c'est la liberté sous le communisme, c'est la liberté dans le bloc soviétique.
Et Christophe Pomian, bonsoir.
Bonsoir.
Qui venait d'arriver, on va se parler dans un instant, je voudrais qu'on se remette dans cette ambiance-là, justement, voici comment ça se passe. On est dans la nuit du 20 au 21, au moment où les soviétiques finissent par dire, attendez, fini de jouer, en quelque sorte. Voici ce récit très émouvant de Spragois qui raconte, écoutez-le.
Moi, je suis tchèque, j'habite Prague et j'étais là en ce matin où les blindés sont arrivés. Vous voyez, il n'y a pas de méchants, de soldats. Et tout de même, pour moi et pour nous tous, c'était pire que l'occupation allemande. C'était quelque chose de terrible parce que c'était un amour jeune qui était tué, un amour pour la liberté. Et c'est pour ça que vous voyez aussi que les jeunes... C'était partout la question de la jeunesse. D'abord, ils étaient désespérés. Désespérés comme si vous voyez tout d'un coup la fille que vous adorez tuée. Toujours la même chose. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Parle, dis-nous. Toi, tu es communiste, non? Alors qu'est-ce que tu fais ici? Alors le soldat lui dit, mais moi je suis soldat, qu'est-ce que je sais? Les Russes sont bien, sont des amis, mais comment pouvez-vous faire ça à nous?
Et vous savez, Fabienne, ce qui est tout à fait extraordinaire,
c'est
très très symbolique de ce qui va se passer, c'est que beaucoup de ces jeunes soldats venus d'URSS, mais aussi d'autres pays du bloc, sauf la Roumanie, sauf la Roumanie qui avait refusé de se joindre à cela.
Et l'Albanie.
Mais au bout d'un, c'était autre chose. Au bout d'un moment, éclatés en sanglots, parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre et qu'ils étaient horriblement mal à l'aise.
Ce passage est formidable. J'espère que les gens ont bien compris que c'est les manifestants qui sont là en train d'interpeller les soldats qui sont sur les chars. Et qu'est-ce que tu fais là?
Ils grimpent sur les chars et ils prennent les types, la tête sort de la tourelle en lui disant « Mais nous sommes des frères, mais nous sommes des frères, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et à la fin, le gars dans la tourelle... 9 fois sur 10, il chialait, tout simplement, il chialait.
Alors ce qui se dit aussi, c'est que l'armée tchécoslovaque aurait pu intervenir, et puis finalement non. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que la tentation de lutter, et de lutter réellement contre les chars soviétiques qui entraient, elle a existé ou pas?
Je vais vous dire, cette tentation-là, elle aurait pu s'exprimer en Pologne s'il y avait eu une invasion de la Pologne au moment de solidarité. Et l'armée polonaise était assez forte pour résister plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pas plus, évidemment, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En Tchécoslovaquie, ils auraient été écrasés immédiatement, et heureusement que l'armée tchécoslovaque n'a pas résisté, je pense.
Christophe Pomian, vous qui êtes polonais, franco-polonais, écrivain, philosophe, vous êtes parti peu après votre 68 polonais, on va dire ça comme ça. Comment on regarde en Pologne ce qui est en train de se passer en Tchécoslovaquie à ce moment-là? Comment on le regarde? Au début d'abord, en janvier, avant même le mois de mars.
Au 11 janvier, je pense qu'il y a très peu de gens qui regardent ce qui se passe en Tchécoslovaquie. C'est la reste relativement confidentiel, c'est confiné à des petites notules dans la presse. Je n'ai aucun souvenir d'une émission de radio de quoi que ce soit de tel. Les contacts sont assez rapidement bloqués. Je me souviens que nous étions avec Kolakowski invités par les philosophes tchèques. Évidemment, nous n'avons jamais reçu du côté polonais l'autorisation de nous rendre à Prague. En fait, ce n'est que lorsque le printemps de Prague prend son essor, si j'ose dire, que la Pologne commence à s'y intéresser. À quel degré, il est très très difficile de répondre. Dans les milieux intellectuels, évidemment, on suit tout cela de très près, mais les milieux intellectuels lisent aussi la presse internationale. Il y a l'Europe libre, c'est-à-dire la radio occidentale américaine, mettant en polonais, qui est très écoutée parce qu'elle est relativement peu brouillée.
Est-ce que vous attendez votre Dubček d'une certaine façon? Est-ce qu'on se dit ça en Pologne?
Vous savez, dans l'immeuble en face de celui où j'habitais, où j'habite d'ailleurs toujours quand je suis à Varsovie, il y avait là un magasin de poissons qui depuis a disparu. Il y avait un grand écriteau à la craie qui est apparu quelque part, je ne me souviens plus quel mois, du printemps 68. Cała Polska czeka na Dubčeka. Toute la Pologne attend Dubček. Alors, était-ce toute la Pologne? Je n'en suis pas très sûr. Et les événements de mars 68 polonais laissent extrêmement dubitatif sur toute la Pologne attend. Mais il y avait certainement une Pologne qui attendait son Dubček.
Et le mouvement de mars 68 commence, j'ai presque envie de dire par hasard, en fait, commence comme une espèce de d'irruption très soudaine après l'interdiction d'une pièce. C'est comme ça que ça démarre, en fait.
C'est un tout petit peu plus compliqué que cela. C'est-à-dire, tout commence, en fait, avec la guerre des six jours israélienne.
Alors, j'allais vous y emmener, mais bien sûr.
Et... une campagne antisémite sous couverture antisioniste qui est lancée à cette époque-là. Il est évident à partir de ce moment que la direction du parti a décidé de pacifier les intellectuels. Que dans cette ambiance, une pièce classique de Mickiewicz, un élément du répertoire national incontournable, mais quand même jamais joué entre 48 et 56. Son retour en 56 était aussi un événement politique. Soit joué et qu'en plus elle soit mise en scène comme elle a été mise en scène.
Il faut expliquer peut-être aux gens, c'est Shakespeare, pièce... c'est Victor Hugo à votre échelle.
C'est Victor Hugo à toutes les échelles. D'ailleurs, la pièce s'appelle Les Aïeux. Et on peut l'interpréter de diverses manières, mais il y a quand même des passages qui sont décidément anti-russes et qu'on ne peut pas éliminer, tout simplement.
C'est-à-dire que c'est une dénonciation de l'oppression, tsariste de la Pologne qui est applaudie par le public comme une dénonciation de l'oppression soviétique.
Alors,
de
elle
la
a
Pologne.
Été très peu applaudie par le public parce qu'elle a été interdite très rapidement, mais quand même il y a eu ce spectacle, j'y ai assisté moi-même. Donc je m'en souviens, et c'est l'interdiction de cette pièce qui provoque une petite manifestation des étudiants de l'université de Varsovie devant le monument de l'auteur de la pièce, donc d'Adam Mickiewicz. Laquelle manifestation évidemment sera rapidement liquidée, et suite à quoi, alors il y a d'une part des protestations des intellectuels qui prennent la voie habituelle des lettres aux autorités. Et d'autre part, les étudiants décident, à un certain moment, enfin un groupe des étudiants, les groupes, grosso modo, autour de Jacek Kuroń et de Karol Modzelewski, qui l'un et l'autre, à l'époque, n'étaient pas présents parce qu'il était déjà en prison, ce groupe décide d'organiser un meeting dans la cour de l'université. Ces meetings convoqués pour le 8 mars... je dois confesser qu'avec mon ami Kolakowski, nous avons tout fait pour qu'il n'ait pas lieu. en essayant de convaincre les organisateurs, mais c'était peine perdue.
Parce que vous craignez des représailles.
Nous savions, je dirais, ce qui va se passer. Ça ne nécessitait pas d'avoir le troisième œil ni un don prophétique particulier. Et il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire eux, ils ont organisé un meeting, la classe ouvrière a été amenée par camion entier à entrer sur le campus de l'université, les professeurs qui essayaient de s'interposer entre les étudiants et la classe ouvrière ont été tabassés par la dite classe ouvrière qui ne s'embarrassait pas des distinctions académiques. Et le résultat donc a été celui-là, ce qui a déclenché, ce qui a mis les feux aux poudres. Les poudres qui s'accumulaient depuis très longtemps dans l'enseignement supérieur polonais.
Alors il y a cette manifestation, il y a eu l'arrestation notamment de Michnik qui raconte que les personnes n'imaginaient même pas lui en fait que ce moment-là quand même se transformerait en mouvement. Même lui, à ce moment-là, qui se fait pourtant arrêter, ne le sait pas, ne le voit pas.
Vous savez, le 3 mai, dans la cour de la Sorbonne, j'y étais, et personne n'imaginait que ce rassemblement, ce meeting dans la cour de la Sorbonne, allait déclencher la plus grande grève de l'histoire de France.
Oui, ne nous ramenez pas en France tout de suite, Bernard.
Et d'autre part, vous savez, personne n'imaginait ça. Je pense que les autorités ont été tout aussi prises au dépourvu. Que j'étais le 8 mars à l'université, bien évidemment, mais pour diverses raisons. Je savais à peu près comment ça va finir, mais que ça va déclencher un mouvement polonais, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord l'école polytechnique qui a bougé, et qui a bougé d'une manière très spectaculaire, et d'autre part, qu'il y ait des mouvements étudiants pratiquement dans toutes les grandes villes universitaires. Ça, personne de nous ne s'y attendait. Réflexion faite, on avait tort parce que il se trouve que nous, c'est-à-dire un petit groupe d'intellectuels qui s'intéressaient à la chose, savaient très bien quelle est la situation dans l'enseignement supérieur polonais et que les poudres sont accumulées depuis belle lurette.
Je voudrais qu'on fasse des allers-retours entre Varsovie et Prague quand même. Je voudrais que peut-être que vous allez reconnaître cette voix, Bernard. Écoutez.
Vous savez probablement que de la part de nos lieux officiels, les jeunes gens ont été décriés comme une génération négativiste, comme une influence destructive dans une société, surtout les étudiants. Mais du moment où cette pression réglementative a cessé de peser sur les jeunes, sur les étudiants. Ils se sont montrés comme une génération très intelligente, très, même dans, en ce qui concerne leur attitude politique, très mûre, responsable. Et c'est quelque chose qu'on devrait dire aussi aux autres pays, parce que le problème est le même partout.
Édouard Goldtucker. Donc, je me suis dit que vous l'aviez peut-être rencontré,
non,
en fait,
jamais.
Le patron de l'Union des écrivains tchèques, grand spécialiste de Kafka. Enfin.
Mais phrase absolument remarquable, parce que le problème est le même partout. Le problème était le même partout sur les 5 continents, à l'est comme à l'ouest. Une génération, celle des baby boomers, descendait dans la rue pour contester quoi ? L'ordre établi d'après-guerre.
Alors, est-ce qu'il y a quand même des similitudes entre effectivement notre 68 que vous avez évoqué tout à l'heure, et ceux de l'Est, parce qu'on a quand même le sentiment que, d'un côté, pardon Bernard, il y a un côté lutte contre une forme de société bourgeoise, on va dire ça comme ça, ça c'est chez nous. De l'autre côté, à l'Est, c'est plus de droits, c'est plus de liberté, c'est quand même une autre mayonnaise, quoi, d'une certaine façon.
Bien sûr, forcément, mais en même temps, je me souviens très très bien que dans les manifestations du 68 français, l'un des slogans les plus répétés, c'était Paris, Berlin, Tokyo, Rome, Varsovie. Paris, et avec des variantes, naturellement. Et il y avait Prague, et il y avait ceci, et il y avait cela. C'est probablement là qu'une vocation de géopoliticien est née, dans cette énumération de noms de villes.
Et cela étant dit, je pense que ça traduisait beaucoup plus l'idéologie internationaliste, qui, marxiste ou marxisante ou post-marxiste, qui imprégnait quand même ce mouvement des 68 en France dans ses différentes variantes, qu'une quelconque réalité et le contact en général entre les jeunes des parts et d'autres donnait lieu à des désillusions extrêmement profondes, des parts et d'autres, mis à part des petits groupuscules d'extrême-gauche qui s'entendaient entre eux. Je dirais plutôt, c'est-à-dire, d'une part, Bernard a raison, évidemment, c'est-à-dire c'est une génération des baby-boomers, génération grandie dans des conditions incomparablement meilleures que les générations précédentes, tout simplement. Je ne voulais pas dire bonne parce qu'elle n'était pas partout bonne, mais elle était, y compris en Pologne, en Tchécoslovaquie et partout ailleurs, dans les pays de l'Est. Il était beaucoup mieux d'être né en 1945 que d'être né 10 ans plus tôt. Point. Et donc, c'est une génération qui, dans ces bonnes conditions, avait, comment dirais-je, voulu adapter la liberté dont elle disposait. Cette liberté pouvait être entendue comme la liberté de faire entrer les garçons dans les
dortoirs
des filles, évidemment, ce qui était le point de départ bien connu, ou comme la liberté de la presse, ou la liberté au sens encore plus profond du terme, dans certains cas, dans certains quartiers du printemps de Prague. Cette liberté faisait un peu partie de ces bien-être qu'il voulait compléter, rendre plein.
Bernard, sans mars 68 que nous raconte Christophe Pomian, il n'y a pas Gdansk, il n'y a pas les années 80, il n'y a pas Solidarité. Sans Prague et son printemps, il n'y a peut-être pas de chute du mur non plus, ou en tout cas, est-ce que tout ça...
On le sait
aujourd'hui, évidemment, mais la germe est là.
En tout cas, Fabienne, pas aussi rapide, pas aussi unanimiste, je dirais. Parce que, effectivement, des manifestations de mars 68 en Pologne sortent tous les cadres et toutes les têtes pensantes de la dissidence, dans ce qui vont devenir eux-mêmes les intellectuels de Solidarité, premier syndicat libre du bloc soviétique, qui sonne le tocsin, évidemment, on le sait maintenant, du bloc soviétique et du communisme. Et dans l'écrasement du printemps de Prague, il y a évidemment l'écrasement du dernier espoir que pouvait représenter le communisme, c'est-à-dire celui d'un socialisme à visage humain, puisque c'était pas ça, vous n'en voulez pas, et ben allez au diable. Et c'est ce qui s'est passé.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Je pense que Solidarność, le mouvement polonais, aurait tout aussi bien pu naître sans mars 68. Comme toujours, je suis historien, donc je sais mieux que quiconque que l'histoire a eu lieu et que toute version contrefactuelle est indéfendable. Mais ce que disait Bernard, ces cadres de la future dissidence grandissaient de toute manière. C'était un processus qui a commencé en 1956. La vraie date de tournant, c'est 1956. Et ces cadres ont commencé à grandir à cette époque. Mars 68 a accéléré la séparation, mais il n'a pas créé quelque chose qui était déjà en marche.
Et c'est dans votre livre, Bernard, que j'ai lu cette phrase, je ne sais plus qui demande à Gorbatchev quelle est la différence entre Prague,
c'était à son porte-parole. Et le porte-parole répond 20 ans.
Voilà,
entre Prague et la Perestroïka, il répond 20 ans.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci mille fois. Merci Christophe Pomian d'avoir été avec nous. Merci à Bernard Guetta. Demain, l'année 68 se déplace à l'ouest. Figurez-vous, nous serons sur le campus de Berkeley après l'offensive du Tête. Nous serons, voilà, Bernard, vous pourriez revenir si vous voulez, mais vous pourrez revenir aussi pour le Biafra jeudi. Nous serons face à la mort de Martin Luther King, également celle de Robert Kennedy. Grosse année 68 de l'autre côté, donc vers l'ouest. Merci encore. J'en profite, tiens, pour vous dire, on s'en reparlera demain, la semaine prochaine, mais puisque je l'ai en tête, je vous le dis, il y a, à partir de ce jeudi à Radio France, avec Lina, une magnifique exposition, ça se passe ici, en bas, ça s'appelle Silence Radio, mai 68 à l'ORTF. Qu'est-ce qui se passait à la Maison Ronde, quand justement, pourquoi on n'émettait pas, qu'est-ce qu'on émettait et qu'est-ce qui se passait réellement? L'institution ORTF grondait, elle aussi, ça commence ce jeudi et ça se passe dans le Hall Seine. Voilà, je vous ai tout dit.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde avec Florence Paracuello sous les radars, le feuilleton écolo de Sandy Dauphin avec des abeilles en forme de drone, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir les amis de l'ORTF.
La guerre commerciale, tous responsables, tous coupables alors.
Oui, c'est ça. Et si on était en train de jouer à se faire peur sur cette guerre commerciale et si les Européens n'étaient pas davantage fair-play que Donald Trump?
Et ce sera tout à l'heure, 18h55. Merci de nous écouter. Tiens, je vous ramène un tout petit peu en arrière. 1967, Buddy Rich, The Beat Goes On.
Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has banned that stage, uh-huh. The mini skirts, the current thing, uh-huh. Teeny bopper is our newborn king, uh-huh. And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Grocery stores, a supermarket. On. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain.
The beat goes on, nous dit Buddy Rich sur France Inter. Et Florence Paracuello, c'est là.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Florence rencontre d'abord avec un homme pas rancunier, dites donc.
Le prince saoudien Al-Walid Ben Talal, barbe soigneusement taillée et foulard à damier rouge sur la tête. Sa minceur est inversement proportionnelle à son poids financier. Fortune estimée 17 milliards de dollars, investisseur majeur d'Euro Disney ou de Twitter entre autres. Il a aussi quelques relations familiales puisque c'est le neveu du roi et le cousin du prince héritier Mohamed Ben Salman qui fait la pluie et le beau temps sur le royaume des Saouds. Une fois qu'on a dit ça, on se dit que cet homme est intouchable. Et on se trompe, il a fait partie des détenus du Ritz de Riyad, arrêté en novembre dernier, détenu pendant 3 mois avec 350 personnalités accusées de corruption. Bloomberg vient de l'interviewer. Il confirme que pour sortir, il a signé un accord financier avec les autorités. On parle de 6 milliards de dollars. Lui n'en dira pas plus. De toute façon, il n'a rien à se reprocher.
Unfortunately, I was out of that group.
Malheureusement, j'ai été arrêté avec ces gens. Mais heureusement, j'en suis sorti maintenant. Et la vie est redevenue normale. Je ne suis pas le genre de personne à dire « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Non, moi, je pardonne et j'oublie tout. Bon, pas rancunier, le prince. On a beaucoup glosé sur la prison dorée qu'était le Ritz pour les hommes d'affaires, les ministres et les princes arrêtés. D'aucuns disent que les conditions de détention n'y étaient pas dorées. Certains auraient été maltraités et torturés. Une vidéo du prince Al-Walid après 2 mois et demi de détention, le montrait amaigri et hagard. Lui dit qu'il n'a pas été torturé et pas question de se plaindre maintenant qu'il est de retour aux affaires, même délesté de quelques milliards. La famille, c'est sacré.
I used to say, you know, look, this is your uncle.
Bon, je me suis dit, c'est mon oncle, c'est mon pays et c'est mon cousin, le prince Mohamed. Donc quand je suis sorti, je me suis senti totalement serein, très à l'aise, sans rancœur et sans mauvais sentiments. Je peux même vous dire que ma relation avec le prince est encore meilleure qu'avant. Ça se passe comme ça chez les Saouds. Plus on se maltraite, plus on s'apprécie. Et c'est pour le bien du pays. Le procureur général saoudien a expliqué que les accords conclus avec les détenus du Ritz avaient permis au royaume de récupérer 86 milliards de dollars.
Enfin, elles sont reparties pour 6 ans. Alors, 6 ans de contestation punk, les Pussy Riot dédient leur nouveau morceau à, devinez qui, Vladimir Poutine.
Les 3 activistes russes étaient sur scène à Mexico hier soir. Elles ont rappelé que leur groupe s'était formé contre Poutine pendant la campagne pour la présidentielle de 2012. Depuis, elles ont connu la prison et les camps de travail. Aujourd'hui, elles repartent au combat avec leur nouveau titre, Élection.
6 lettres, 6 lettres, не подчиняться, 6 лет, сколочу банду, 6 лет, мы не едем баланду, 6 лет, драться.
Pour les paroles, ça donne pendant 6 ans, on va se battre, ne pas obéir pendant ce mandat. Pour les images du clip, des dessins d'Oleg Navalny, frère d'Alexei, le principal opposant à Poutine, empêché de se présenter à l'élection. Oleg Navalny, condamné à 3 ans de prison pour vol. Jugement arbitraire et déraisonnable, dit la Cour européenne des droits de l'homme.
Florence Paracuello, sous les radars, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Sintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et le feuilleton du mardi, c'est Sandy Dauphin qui tente de refroidir la planète. Sandy, vous n'êtes pas au bout de vos peines, c'est le moins qu'on puisse dire. L'imagination n'a pas de limite. Voilà que les Américains ont un truc, en gros, pour compenser le fait que les abeilles disparaissent. Sandy, ce sont des mini-robots pollinisateurs, en fait, qui vont remplacer les abeilles dans les champs. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. L'idée a déjà séduit Walmart, donc le géant américain de la grande distribution, qui a déposé un brevet pour développer ces fameux drones.
Oui, ce petit bruit métallique assez désagréable que vous entendez pourrait remplacer les bourdonnements des abeilles dans les champs. Walmart, le premier réseau mondial de supermarchés, n'a pas encore expliqué publiquement pourquoi il mise sur ces robots pollinisateurs. On peut juste supposer que face à la disparition massive des pollinisateurs naturels, il s'inquiète pour son approvisionnement en fruits et légumes. Rappelons qu'un tiers de notre nourriture dépend de la pollinisation des abeilles. Les mini-drones seraient équipé de caméras, de capteurs pour localiser les fleurs, prélever le pollen, le transporter ailleurs et même vérifier que la pollinisation a réussi.
Et est-ce que les drones piquent aussi ? C'est pas précisé visiblement. Alors Walmart en tout cas n'est pas le premier à vouloir faire appel à des robots pour venir à la rescousse des abeilles.
Non, l'université Harvard est à la pointe. Des chercheurs travaillent sur un programme baptisé RoboBee, Robot Abeille, depuis 2009. Des drones miniatures présentés ici dans une vidéo de Harvard.
This is a RoboBee. Ceci est un robot abeille. Ces robots miniatures s'inspirent de la biologie des abeilles et de leur comportement au sein d'une ruche. Je suis très enthousiasmée dans le potentiel d'un dispositif autonome qui réfléchit tout seul. Son impact pourrait être énorme pour polliniser les champs ou encore mener des opérations de recherche et de sauvetage. Et ça, c'est de la science, pas de la fiction.
Ouais, mais les Japonais aussi font le buzz. Ils ont conçu un petit robot recouvert de 3 millions de poils de cheval. Il est enduit d'un gel spécial, un gel ionique, c'est-à-dire électriquement chargé. Il capture le pollen sur une fleur et il le redépose sur une autre.
Alors, il faut reconnaître que c'est assez fascinant ce que vous nous racontez, Sandy. C'est quand même un tout petit peu effrayant aussi.
Bah, c'est ce qu'a voulu montrer Greenpeace dans une vidéo aussi. L'ONG y parodie des vidéos de laboratoire avec son idée du robot abeille du futur.
Contrairement aux abeilles standards, les nouvelles abeilles sont équipées pour combattre leurs ennemis naturels. Dès qu'un prédateur s'approche, les nouvelles abeilles sont alertées et pulvérisent un jet d'insecticide à effet immédiat et neutralisent la menace en une seconde. Elles sont facilement recyclables, remplaçables et activées.
Voilà, les abeilles robots de Greenpeace,
les nouvelles abeilles en plus,
des insecticides. Terrible. Et en conclusion de cette vidéo, Greenpeace demande, est-ce qu'il faut imaginer un nouveau monde ou bien sauver l'ancien ? Vous avez 4 heures, Fabienne.
Bah, bon, une minute me suffira, même pas une seconde d'ailleurs, sauvons l'ancien. Alors quand même, des robots abeilles donc, qui vont aider les vrais pollinisateurs, c'est très américain cette idée que finalement, c'est pas grave ce qui se passe dans le climat, l'innovation va nous sauver le monde en fait.
Ouais. Alors attention, je dis pas qu'il faut revenir à la chandelle, il y a bien sûr des innovations technologiquement exceptionnelles et indispensables dans le domaine de l'environnement, on en parle régulièrement sur France Inter, mais est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de sauver les abeilles, par exemple en utilisant moins de pesticides plutôt que de s'en passer? Et puis les robots pollinisateurs ne vont-ils pas tuer encore plus de vraies abeilles? Ils seront en concurrence pour la nourriture, le pollen déjà insuffisant. Finalement, substituer un insecte par une machine, pour le professeur d'écologie Luc Abadi, vice-président du conseil scientifique de l'Agence française de la biodiversité, c'est tout simplement sous-estimer la nature.
Il y a une espèce de délire techniciste. L'idée comme quoi on a un problème, une solution, dans la nature, ça n'existe pas. On a tout le temps quelque chose qui est relié à d'autres phénomènes. L'abeille, elle fait partie d'un réseau d'interactions avec les plantes, avec d'autres organismes. C'est le principe même de la notion d'écosystème. Et c'est bien parce qu'on raisonne jamais en termes de système qu'on a généré tous les problèmes environnementaux qu'on connaît aujourd'hui.
Et en plus, les abeilles, mais aussi les scarabées, les mouches, tous ces pollinisateurs, eh bien, ils font le job gratuitement. Et puis, contrairement aux robots, les abeilles font du miel.
Voilà, j'ai une pensée pour mon cousin apiculteur. Il s'appelle Quentin. Et on l'embrasse.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four dans Un jour dans le monde tous les jours. C'est une semaine cruciale, Jean-Marc, sur le front de la tension commerciale avec les États-Unis. Il y a plusieurs points. Il y a d'abord le G20 qui est en Argentine jusqu'à ce soir. Les propositions européennes de taxation des GAFA, les géants du numérique, ça c'est demain. Et puis l'entrée en vigueur donc de cette nouvelle taxe douanière américaine sur l'acier, ça c'est dès vendredi. Et dans votre monde à l'envers, Jean-Marc, ce soir, vous nous dites que accuser Trump dans ce dossier, c'est un peu facile, voire que les Européens sont également de très mauvaise foi.
Oh, le méchant Donald.
Mais oui.
Voilà, c'est à peu près la position européenne depuis l'annonce par le président américain d'une taxation donc douanière des importations à 25% de taxes pour l'acier, 10% aussi pour l'aluminium. C'est tout juste si le patron de la Maison Blanche ne mettrait pas en péril l'ensemble de l'économie mondiale. Donc je dis pause. Vous avez remarqué, j'aime bien dire pause.
Vous aimez bien dire pause.
Ouais, ouais. Et si on arrêtait les effets de manche, et si on arrêtait de s'affoler ou de faire mine de s'affoler? D'abord, l'impact de ces mesures sera faible. L'acier et l'aluminium, ça ne représente que 2% du commerce mondial. Impact encore plus faible pour les Européens, quelques centaines de millions d'euros pour la France, un peu plus pour les Allemands, mais rien qui modifie structurellement nos équilibres commerciaux. En plus, l'Union Européenne, aujourd'hui même, essaie de décrocher une exemption globale de cette taxe, comme l'ont déjà fait le Canada et le Mexique. Bref, les seuls pays qui seront vraiment touchés devraient être le Brésil et la Corée du Sud, et les États-Unis eux-mêmes, parce qu'ils vont payer les pots cassés. Leurs importations d'acier vont leur coûter plus cher, donc il y aura des répercussions sur leurs industries, en particulier l'automobile ou l'aéronautique. Et puis vous savez quoi? En fait, ça n'est pas très nouveau. Depuis 40 ans, c'est même une vieille rengaine. Presque tous les présidents américains se sont autorisés leur petit plaisir, leur petite taxation douanière. Alors Reagan, c'était avec les machines-outils, Clinton avec les automobiles japonaises et Bush Junior, déjà avec l'acier, etc. Est-ce que ça a déjà déclenché une guerre commerciale globale et généralisée? Jamais. Donc, on joue à se faire peur. En tout cas, à ce stade, much ado but nothing, aurait dit Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien.
Mais alors là, je dis pause, si je puis me permettre.
C'est très bien.
Voilà.
Vous le
faites très bien. On ne peut pas non plus laisser Donald Trump changer tout seul les règles du jeu du commerce international.
Non, et du coup, on fait quoi? On lui fait la morale, mais on fait la même chose que lui. D'abord, on menace les États-Unis de représailles du même acabit. Vous taxez notre acier et notre aluminium, nous allons taxer vos jeans, votre beurre de cacahuète et, comble de l'horreur pour vous, ma chère Fabienne,
oui,
vos Harley Davidson.
Ça, tous mes plans.
Et fou, puis moi. Surtout, parallèlement, on s'apprête à taxer donc les géants américains du numérique entre 3 et 5% de taxation. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une taxe douanière. Et en plus, il y en a marre que les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon ne paient pas d'impôts en Europe. Tout cela est vrai, sauf qu'il s'agit quand même, là aussi, de protectionnisme. Il n'est pas commercial, il est fiscal, voilà tout. Par-dessus le marché, le raisonnement retenu par la Commission européenne, on aura plus de détails demain, ce raisonnement est quand même contestable. Il ne s'agit pas de taxer les bénéfices, mais le chiffre d'affaires en tant que tel. Vous avez un gros chiffre d'affaires, donc c'est que vous faites des gros bénéfices. En l'occurrence, c'est vrai pour les GAFA, mais ça ne vaut pas pour tout le monde. On peut avoir un gros chiffre d'affaires et ne pas faire de bénéfices. Donc en fait, les Européens font comme Trump et leurs décisions sont motivées d'abord par leur électoralisme, c'est-à-dire par satisfaire leur électorat.
Il y a quand même un petit risque, non, dans ce œil pour œil, dent pour dent?
Évidemment, il y a un risque de cercle vicieux, de sanctions en série qui finiraient par affecter la croissance et l'emploi. Mais ces guéguerres surtout nous détournent de la vraie question de fond. Cette vraie question, c'est comment réguler une mondialisation qui est loin de profiter à tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces effets de manche? Il y a en fait des échecs, plusieurs échecs en creux. Incapacité européenne à créer une politique fiscale commune avec une même assiette d'imposition pour les sociétés et en particulier les multinationales. Incapacité de l'OCDE à trouver un système de fiscalisation spécifique pour les entreprises du numérique. Incapacité de l'Organisation mondiale du commerce à imposer des règles de production. Prenons le cas de l'acier. Le problème vient exclusivement de la surproduction chinoise à prix cassé, subventionnée par l'État. C'est la moitié de la production mondiale, la production chinoise. Personne ne dit rien aux Chinois. Résultat, il n'y a pas de règles. Le sentiment d'injustice s'accroît dans les électorats sur les inégalités de la répartition. Effet en chaîne, mesures protectionnistes par mélange de clientélisme et de nationalisme. Ça continuera tant que la question de fond restera en friche.
Jean-Marc Four. Merci beaucoup. Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde. Le 18-20 continue, bien sûr, avec le téléphone sonne. Tiens, on va parler de bonheur ce soir. Figurez-vous, ça va Jean-Marc? Vous êtes un garçon
heureux? Ça va très bien, je suis très heureux.
Eh bien écoutez, figurez-vous que le bonheur, il se cultive comme un jardin. Ça s'apprend et on vous l'impose aussi parfois. Vous savez qu'il existe désormais des chief happiness dans les entreprises. Il n'y en a pas encore à France Inter, mais allez savoir. Moi, en tout cas, je suis l'agent d'ambiance du 18-20. Bonsoir. Soyez heureux. Enfin, quelle est cette injonction à vos téléphones? Ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000.